Europe 1, il est midi.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1 en direct de Roland-Garros. On sera avec Axel May dans un instant, on sera avec Cédric Pioline dans le studio Europe 1. On est juste à côté du cours central de Roland-Garros. À la une du journal d'Europe 1 midi, le plan de lutte contre la fraude sociale. Plan de lutte contre la fraude sociale présenté par Gabriel Attal. Le ministre des Comptes publics veut notamment réduire la fraude à la Sécu via une fusion de la carte d'identité et de la carte vitale. Le détail de ce plan dès le début du journal avec Baptiste Morin. On sera avec une spécialiste de ces questions, la sénatrice UDI Nathalie Goulet. Elle sera avec nous à partir de midi 20. Et puis on sera avec vous, bien sûr. Ce plan est-il suffisant selon vous? Êtes-vous choqué par ceux qui fraudent les aides social, vous appelez le 01 80 20 39 21. Des drones qui visent Moscou. Que sait-on exactement de ce qui s'est passé ces dernières heures dans la capitale russe? Les dégâts sont mineurs, dit le maire de Moscou. On écoutera les précisions et l'expertise de Jean-Paul Paloméros, général d'armée. Il a été interrogé par Guillaume Dominguez. L'inauguration de la première giga-usine de batteries électriques dans le nord, entre Lens et Lille, c'est le fruit d'un travail commun entre Total Energy, Stellantis et Mercedes. Maximilien Carlier est sur place pour Europe 1. Les prix de l'immobilier continuent de grimper sur un an. Ils grimpent, mais moins vite qu'avant. Ça baisse même sur un trimestre. Par ailleurs, le taux d'usure doit augmenter au 1er juin prochain pour rendre les crédits plus faciles. On sera avec Maël Bernier de meilleurtaux.com. La tendance météo à présent avec Anissa Haddadi, avec encore une ambiance orageuse dans le sud.
Alors, ils seront moins nombreux qu'hier, ces orages, hein, parce que le sud a été vraiment touché fortement avec des chutes de grêle et des orages violents, notamment du côté de l'Ardèche et du Var. Aujourd'hui, ça ira un petit peu mieux. Ce sont plus les montagnes qui seront touchées. Mais bon, le ciel se couvre et les averses seront fréquentes encore sur le tiers sud. Pour le nord, rien à signaler, toujours du grand et beau soleil. Avec ce vent qui souffle, c'est pas forcément pratique hein, quand on joue à Roland-Garros, tout ce vent.
Merci Anissa, effectivement. Et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1 midi.
Entre 6 et 8 milliards d'euros chaque année, c'est ce qui manque aux caisses de l'État à cause de la fraude sociale, estimation de la Cour des comptes. Gabriel Attal veut s'attaquer à ce phénomène. Le ministre du Budget a présenté ce matin un plan en Conseil des ministres. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour Romain.
Chef du service économie d'Europe 1. Pour s'attaquer aux fraudes, aux prestations de santé, tout d'abord, une idée est mise en avant, fusionner carte vitale et carte d'identité. Expliquez-nous.
Oui, l'idée, c'est que vous allez utiliser votre carte d'identité chez le médecin, à la pharmacie. La Belgique, le Portugal, la Suède le font déjà. Alors attention, pour la France, ce n'est pas fait, loin de là. Gabriel Attal lance ce qu'on appelle une mission de préfiguration. En gros, un groupe de travail va préciser le calendrier et puis les modalités d'ici la fin de cette année. De son côté, le ministère de l'Intérieur paraît assez sceptique. Voilà ce que dit un cadre de la place Beauvau à l'AFP. Attention à ne pas enfreindre la protection des données et les libertés individuelles. Pour Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, pas de sujet. Il était interrogé sur la question il y a quelques minutes à la sortie du Conseil des ministres.
Cette décision gouvernementale s'appuie sur un rapport d'inspection générale qui dit bien les choses. À savoir que le moyen le plus sûr et le plus efficace reste d'avoir une fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Et donc il faut maintenant définir les conditions, les modalités pratiques, opérationnelles pour atteindre cette fusion.
Alors Baptiste Morin, le gouvernement veut aussi resserrer la vis sur le versement des aides sociales.
Oui, d'abord dès le 1er juillet, il ne sera plus possible de se voir verser des aides sur un compte extra-européen. Ensuite, pour bénéficier du RSA, des allocations familiales ou des aides au logement, il faudra avoir passé 9 mois sur 12 en France. Et pour les contrôles, Gabriel Attal veut utiliser, vous savez, les fichiers de passagers des compagnies aériennes. Et puis enfin, Bercy veut contrôler tous les retraités de plus de 85 ans qui vivent en dehors du territoire européen. Une expérimentation a été menée en Algérie sur les quasi-centenaires. Eh bien, ça a conclu à un taux de fraude de l'ordre de 30%.
Enfin, Baptiste, les arnaques à l'URSSAF sont aussi ciblées par Gabriel Attal.
Oui, parce que ce sont celles qui coûtent le plus cher à l'État. Gabriel Attal veut donc créer 1000 postes, dont un quart à l'URSSAF, et investir 1 milliard d'euros dans les systèmes d'information sur 5 ans. Ça doit permettre de renforcer le croisement des données qui devrait permettre de détecter les fraudeurs. Bercy cible aussi les plateformes comme Uber et Deliveroo qui abusent du statut de micro-entrepreneur pour sous-déclarer des chiffres d'affaires. D'ici 2027, ce sont ces plateformes-là qui devront payer les cotisations à la source pour assurer les droits de leurs employés. Au bout du compte, ce plan anti-fraude sociale doit permettre de passer de 1,6 milliard d'euros recouvrés aujourd'hui de fraude sociale à plus de 3 milliards d'euros en 2027.
Merci beaucoup à Baptiste Morin pour ces explications très complètes. On va continuer à en parler de ce plan anti-fraude sociale avec Nathalie Goulet. Elle est sénatrice UDI. Elle sera avec nous, elle est spécialiste de ces questions. Et puis vous appelez évidemment le 01 80 20 39 21. Il y a déjà beaucoup d'appels au standard d'Europe 1 midi. Vladimir Poutine est informé minute par minute au sujet de l'attaque de drones perpétrée tôt ce matin à Moscou. Il n'y a pas de menace pour les habitants, selon le Kremlin. 8 drones auraient été neutralisés au-dessus de la capitale russe et de sa région, provoquant des dégâts mineurs. Pour les Russes, pas de doute, il s'agit d'une réponse de Kiev aux récentes frappes en Ukraine. Alors, est-ce vraiment le cas? Selon le général Jean-Paul Paloméros, ce n'est pas impossible. Écoutez.
Techniquement, ils ont montré leur capacité d'innovation. On sait qu'ils ont d'anciens drones russes qu'ils ont pu améliorer. Si c'est l'Ukraine, et il y a quand même des chances que ce soit le cas, ils sont en train d'essayer de renverser la pression en disant « bon, ça suffit maintenant, vous attaquez tous les jours à Kiev, nous aussi on est capable d'aller frapper Moscou ». À partir du moment où la Russie a décidé de s'en prendre à la capitale régulièrement, avec quand même un nombre d'attaques de missiles ou de drones extrêmement important, on a senti monter chez le président Zelensky une sorte d'exaspération et la volonté de montrer qu'il ne va pas se laisser faire comme ça. Et donc, ce serait une réponse plutôt psychologique, en quelque sorte, pour bien montrer aux Russes, et en particulier aux habitants moscovites, que leur pays est en guerre. Est-ce que ça peut durer? Je ne suis pas certain que les Ukrainiens aient des centaines de drones de cette nature.
Le général Jean-Paul Paloméros s'interrogé pour Europe 1 par Guillaume Dominguez. Et la nuit dernière, l'Ukraine a subi sa troisième attaque massive en l'espace de 24 heures. L'armée ukrainienne assure avoir abattu 29 des 31 drones de fabrication iranienne lancés par la Russie, principalement aux alentours de Kiev. C'est une grande première en Europe. Une giga-usine de cellules de batteries électroniques est inaugurée aujourd'hui à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, entre Lens et Lille, un site exploité par une co-entreprise détenue par Mercedes, Total Energy et Stellantis. Trois ministres français sont présents, mais aussi deux membres du gouvernement allemand, ainsi que des ministres italiens et Douvrin. C'est là qu'est installée et construite cette usine, devient officiellement l'un des hauts lieux de l'industrie automobile verte en Europe. Maximilien Carlier.
C'est un immense bâtiment de 600 mètres de long, 6 fois la longueur d'un terrain de football. À l'intérieur, des machines pour fabriquer des modules et cellules. L'ensemble forme des batteries pour voitures électriques. Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en France. Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en Europe. Pour la première fois depuis Airbus, la France et l'Europe créent une nouvelle filière industrielle, la filière des batteries électriques.
À terme, 500 000 batteries sortiront de cette gigafactory. Ici, on voit les salariés d'ACC, casque de chantier sous le bras, comme Florian, 29 ans, il est arrivé dans cette usine il y a 4 mois.
C'est une vraie fierté de faire partie de cette aventure, d'être un pionnier en France, des gigafactories, des batteries françaises.
200 employés travaillent actuellement sur le site. Ils seront 10 fois plus en 2030. Comme un symbole, juste à côté de cette gigafactory, il y a l'usine Stellantis qui fabrique des moteurs thermiques et qui est amenée à disparaître.
Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1, dans les Hauts-de-France. Il est midi 9, Europe 1, midi toujours en direct du studio Europe 1 à Roland-Garros. La page des retraites n'est toujours pas tournée. Un nouvel épisode s'est écrit ce matin. L'insoumis Éric Coquerel, également président de la Commission des Finances, a rendu sa décision sur la recevabilité de la proposition de loi du groupe Liot. Proposition de loi qui prévoit l'abrogation de la retraite à 64 ans. Alexis de la Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale, Alexis. Sans surprise, le député de Seine-Saint-Denis, donc Éric Coquerel, président de la Commission des finances, a donné son feu vert à l'examen du texte. Hein.
Oui, Éric Coquerel savait la pression qui pesait sur ses épaules et le président de la Commission des finances n'a pas changé d'avis.
J'ai donc décidé de rendre recevable la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme du recul de l'âge de la retraite à 64 ans.
Éric Coquerel estime que la jurisprudence est de son côté et affirme vouloir défendre le droit d'opposition parlementaire. Pour le député insoumis, la proposition de loi n'engendre pas de nouvelles dépenses publiques car elle inclut une hausse des taxes sur le tabac. Mais ces explications ne sont pas du goût de Fadila Khattabi, la présidente de la commission des affaires sociales à l'origine de cette demande de censure.
Lui aurait dû, effectivement, par rapport à la situation en plus des comptes, hein, puisque ça aggrave de manière très significative les comptes publics, il aurait dû, en tant que responsable politique, en tant que président de la commission des finances, déclarer cette proposition de loi irrecevable.
Alors, sauf tout le théâtre, la proposition de loi du groupe Liotte visant à abroger la réforme des retraites sera donc bien débattue demain en commission des affaires sociales.
Alexis de la Fontaine en direct de l'Assemblée nationale pour Europe 1. Merci Alexis. L'intersyndicale prévient déjà si le gouvernement utilisait l'article 40 pour empêcher les débats, la colère n'en serait que renforcée, dit l'intersyndicale, les partenaires sociaux, qui appellent une nouvelle fois tous les salariés à manifester le 6 juin prochain partout en France. Que s'est-il passé précisément à la prison d'Arles le 2 mars 2022, jour de l'agression mortelle d'Ivan Colonna par un co-détenu islamiste radicalisé. La commission d'enquête parlementaire consacrée à ce sujet publie ses conclusions cet après-midi. On sait déjà que des manquements certains ont été constatés au cours des 6 mois de travaux. Au total, 71 personnes ont été entendues. Donc, la commission d'enquête qui rendra ses conclusions cet après-midi sur l'assassinat d'Ivan Colonna en prison à la prison d'Arles le 2 mars 2022. Il est midi 12. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi, toujours en direct. De Roland Garros, on est dans le studio Europe 1. On voit depuis le studio Europe 1 le court central. Voilà, Cédric Pioline est prêt. On va retrouver Cédric dans un instant après la pause publicitaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
On est ensemble, il est midi 14, on est ensemble dans le studio Europe 1, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. On est à Roland-Garros, juste à côté du stade et du cours central. On va parler d'un sujet de société. Rentrer seul le soir, c'est une angoisse pour 8 femmes sur 10 en France. C'est ce que dit le dernier rapport du Haut Commissariat à l'égalité. Alors, le ministère de l'Intérieur lance une campagne nationale aujourd'hui. Delphine Schiltz, bonjour. Bonjour Delphine.
Bonjour Romain.
Des tracts vont être distribués dans l'espace public par les policiers, par les gendarmes, pour rappeler les bons gestes à adopter lorsqu'on est victime ou témoin d'une agression de rue. Expliquez-nous.
Oui, des 5 millions de flyers distribués partout en France, tout l'été, dans les transports en commun ou dans la rue, par des policiers et des gendarmes en patrouille. Un tract bleu sur lequel on retrouve une liste de réflexes à adopter quand on est soit victime, soit témoin d'une agression, par exemple. Exemple de conseil, faire du bruit, faire diversion, demander de l'aide autour de soi, filmer la scène. Mais ce flyer reste une mesurette pour Pauline Baron, coordinatrice nationale du collectif féministe Nous Toutes.
5 millions de flyers, c'est rien du tout. On est 67 millions de Français et Françaises et surtout, c'est rien du tout face, je dirais, à l'augmentation en ce moment à laquelle on assiste des violences de genre, quelles qu'elles soient.
Une démarche donc critiquée sur la forme, mais aussi sur le fond, notamment parce que le flyer incite les victimes à déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie.
En fait, on dit à des femmes d'appeler la police, de la faire venir sur place, de porter plainte également, alors qu'on sait très bien que les policiers actuellement sont mal formés, prennent mal les victimes et les plaintes.
Et pour rappel, d'après le site Statista, les 3/4 des plaintes pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel ont été classées sans suite en 2021.
Delphine Schiltz, merci beaucoup Delphine. Europe 1, midi en direct de Roland-Garros.
Retrouvez l'actualité de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Axel May et Cédric Pioline. Cédric est dans le studio avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour Romain.
On vous retrouve dans quelques instants. Axel, vous suivez les matchs. Bonjour Axel.
Bonjour Romain.
Axel May, vous suivez les matchs sur la terre battue de la Porte d'Auteuil tout au long de la quinzaine, bien sûr. C'est la fin du premier tour aujourd'hui, avec pas moins de 11 Français sur les cours.
Oui, oui. Alors pour l'instant, sur les cours d'ici ce soir, pour l'instant, il y en a deux qui sont sur les cours, deux femmes. C'est bien parti pour la première, c'est bien moins bien parti pour la seconde. Alors on va commencer par Fiona Ferro, ici du qualification. On a beaucoup parlé de cette jeune femme parce que l'année dernière, elle a révélé qu'elle avait été, selon elle, violée par son ancien entraîneur. Il y a eu un dépôt de plainte. Elle a arrêté le tennis, elle l'a repris en fin d'année. Elle est tombée à la 466e place mondiale. Elle est passée par les qualifications. Elle a franchi les trois tours de qualification. Mais là, face à la Suédoise Rebecca, c'est bien plus compliqué puisqu'elle est menée 6-2 dans la première manche et elle est sans doute en train là de perdre 5-0 dans le deuxième set, de perdre ce match face à Rebecca Peterson, Fiona Ferro. En revanche, ça va bien mieux pour Diane Parry. La Française a remporté face à l'Ukrainienne Kalinina le premier set 6-2. Elle mène 4-3 dans le deuxième et peut-être dernier set, on l'espère. Et c'est sur son service là en ce moment qu'elle essaie de remporter le jeu. Et je terminerai en vous disant que Diane Parry, vous vous en souvenez certainement, Romain, l'année dernière, c'était son premier Roland-Garros et elle avait d'entrée de jeu éliminé la Tchèque Barbara Krejčíková, qui était tête de série numéro 2. Elle avait été jusqu'au troisième tour. Ça a été ensuite un peu plus compliqué, mais là, figurez-vous qu'elle vient de remporter pas très loin de chez nous, hein, de la Porte d'Auteuil, au Lagardère Paris Racing, le tournoi Clarins. Donc elle s'est remise sur les bons rails et là elle est en train donc de mener Diane Parry face à l'Ukrainienne Kalinina.
Merci beaucoup Axel May. Cédric Pioline avec nous. Bonjour Cédric. J'aimerais qu'on revienne déjà sur les matchs d'hier. Ça passe pour Lucas Van Hache. Hein, ce sont les deux jeunes. On va parler de Lucas Van Hache et d'Arthur Fils. C'est passé pour Lucas Van Hache. C'est pas passé pour Arthur Fils.
Oui, oui, vous avez raison. Ce sont les deux jeunes là, qui commencent à rentrer petit à petit sous les projecteurs, dans la lumière. Et avec Arthur Fils qui avait gagné le tournoi de Lyon la semaine précédente, avait un premier tour compliqué contre l'Espagnol Davidovich Fokina. Il a fait un bon match, certes, mais encore un petit peu juste pour ce niveau contre des joueurs très très solides. 4-7, une défaite honorable, je dirais, qui lui permettra de prendre de l'expérience. Et puis en revanche, pour son copain Van Hache, qui a gagné lui en 3-7 sec, 6-1, 6-1, 6-3 contre Cecinato, qui est un ancien demi-finaliste ici à Roland-Garros. Et je dois dire que pour son premier Roland-Garros, il a été impressionnant, très solide, et il a pas du tout été impressionné sur ce court 14 qui devient un petit peu le court fétiche des Français.
Alors, chez les Français, toujours chez les Françaises, Caroline Garcia, elle l'a emporté, elle a gagné, mais ça a été compliqué.
Compliqué comme son début de saison, en fait, qui est compliqué, où elle a, pour son niveau et son classement, des mauvaises défaites. Je dirais que le niveau de jeu n'a pas été flamboyant. Probablement trop de déchets, trop d'erreurs, dans des conditions qui n'étaient pas si faciles que ça, avec du vent sur le court central, mais positif parce que, bon, évidemment, elle s'est bagarrée, mais dans l'attitude, dans la posture, elle a essayé de, et elle l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, d'aller chercher l'énergie du public, de se rendre compte et d'apprécier ce moment et cette chance de pouvoir évoluer une fois de plus ici à Roland-Garros sur le court central. Donc j'espère qu'elle va petit à petit hausser son niveau de jeu si elle veut progresser et avancer dans ce tableau.
Cédric, s'il devait y avoir qu'un match à regarder aujourd'hui, ce serait lequel? Qu'est-ce que vous regardez?
Il y en a plein. Oui. C'est la magie de la première semaine avec tous les premiers tours qui se finissent aujourd'hui, comme vous l'avez noté. Moi, je dirais que un petit cocorico sur Gasquet, qui est opposé à son compatriote Rinderknecht. Et voilà, ça, c'est la 19e participation, je crois, de Gasquet ici, donc il faut aller voir, ça va être sympa. Mais après, il y en a plein, il y a Ruud, il y a Medvedev, il y en a plein. Non, Medvedev, je parle dehors du pardon.
Merci beaucoup Cédric Pioline. Cédric, qu'on retrouve tous les jours, tous les jours dans Europe 1 Midi, puis dans tous les rendez-vous d'information consultant Roland Garros d'Europe 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric. On passe à la bourse à présent avec Claire Lemaître. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Alors, qu'est-ce que ça donne à Paris aujourd'hui, la bourse ?
Le CAC 40 glisse sous les 7300 points, moins 0,3%. On est à 7285 points et on reste focalisé sur le plafond de la dette des États-Unis. Un compromis a été trouvé ce week-end par le président Joe Biden. Mais maintenant, il faut l'accord du Congrès et ça, eh bien, ça semble plus compliqué. Et le problème, c'est que la date du 5 juin approche avec la menace d'un défaut de paiement. Du côté des valeurs, Total Energy cède plus de 1%. Le groupe recule avec le pétrole, le baril de Brent perd plus de 2% en ce moment. Et puis en Europe, les marchés sont partagés. Francfort gagne 0,5, moins 0,3 pour Londres. Le CAC 40 cède donc un petit 0,3%. On est à 7285 points.
Claire Lemaître de boursier.com. Merci beaucoup Claire. La météo à présent, Anissa Haddadi avec une situation toujours bloquée, hein.
Oui, c'est le même scénario qu'hier, effectivement. Situation météo bloquée sur la France avec cet anticyclone sur les îles britanniques qui nous apporte du soleil sur les deux tiers nord du pays, mais toujours ce vent de nord-est qui souffle jusqu'à 70 km/h sur les côtes de la Manche. On aura des rafales à 30 km/h dans Paris pour Roland-Garros cet après-midi, mais du grand soleil. Sur le tiers sud, des Pyrénées jusqu'aux Alpes et jusqu'en Corse, eh bien les nuages sont de plus en plus nombreux. Et puis les orages éclatent sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et la Corse, mais ils seront moins violents et moins nombreux qu'hier. Les températures toujours très douces et chaudes même pour la saison. 15 à 31 degrés, 15 à Dunkerque, 19 au Havre, 21 à Lille, 24 degrés à Paris cet après-midi, 28 à Marseille et Toulouse, 30 à Nîmes et jusqu'à 31 degrés à Brive-la-Gaillarde.
Merci beaucoup Anissa, restez bien avec nous midi 22 sur Europe 1, dans Europe 1 midi, toujours en direct de Roland-Garros, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. On va parler de la lutte contre la fraude sociale, puisqu'il y a un plan qui vient d'être présenté par le ministre du Budget, ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. On en parle avec Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, et avec vous, 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.